RRB, le portrait de la semaine.
Depuis le 13 mai, le théâtre de Lille a fermé ses portes. Le rideau est tombé sur des années d'efforts pour développer ce lieu un peu magique et qui avait fini par trouver son public. Pour autant, son directeur, Dominique Clément-Larosière, ne désespère pas, car il sait, comme l'affirmait Louis Jouvet, qu'il n'y a rien de plus faux, de plus vain, ni de plus nécessaire que le théâtre. Bonjour Dominique Clément-Larosière.
Bonjour Gilles Ménage.
Votre histoire avec la Nouvelle-Calédonie, elle commence quand et comment ?
Alors elle commence en janvier 1987, à la demande d'une radio existante sur le territoire qui s'appelle Radio Rythme Bleu. Et je suis en Normandie à ce moment-là, et un journaliste de Radio Rythme Bleu, Jean-Guy Muriel, passe en Normandie voir un pote à lui, qui était mon directeur de radio à l'époque. Et voilà, c'est des rencontres et l'aventure, c'est ça te dirait pas de venir en Nouvelle-Calédonie pour travailler sur les programmes. En fait, j'étais directeur de programme. Mmh. Et voilà, l'aventure démarre et je rencontre Christian Prost. Et puis l'aventure s'est pas arrêtée. Alors, elle s'est arrêtée pour Radio Rythme Bleu, mais c'est pas arrêtée pour la Nouvelle-Calédonie.
C'est quoi la Calédonie pour vous à cette époque-là ?
Alors, je sais à peine que ça existe. Comme beaucoup, vraisemblablement, en métropole à ce moment-là et toujours. Et c'est d'abord une aventure personnelle parce que, bon, les radios à cette époque-là en France, c'est un petit peu le début des radios libres, enfin, à 5-6 ans près. Et ça se passe bien, mais c'est pas absolument génial. Et c'est vraiment vu comme une aventure au bout du monde. Donc je découvre un pays où il y a plein de choses à faire. Plein de choses sont faites, mais plein de choses sont à faire. Et notamment tout ce qui est culturel. Moi, je suis vraiment branché là-dessus. Et je me rends compte qu'après avoir vécu mon aventure radiophonique ici, c'est que bah, il n'y a pas grand-chose d'autre quoi qui existe pour le coup. Et moi, j'ai commencé à toucher à des concerts, j'ai commencé à toucher à des choses comme ça. Et c'est ce qui me donne l'envie d'en faire ici. Parce qu'en fait, toute ma deuxième vie ici, c'est une vie d'événementiel.
Et c'est une vie en même temps dans un pays auquel vous vous êtes très profondément attaché, on imagine.
Ah oui, complètement, oui, assez rapidement d'ailleurs, j'y ai retrouvé plein de valeurs qui étaient les miennes et dont je bénéficiais pas forcément en Normandie, enfin, valeurs humaines que j'ai retrouvées, même des valeurs familiales avec les gens que j'ai rencontrés, et ouais, ça m'a pas du tout donné envie de repartir. Alors j'ai fait juste un petit break à un moment donné, parce que j'ai eu une aventure possible en Afrique, donc je l'ai fait, je suis parti 2 ans, mais je suis revenu, enfin j'étais parti sans avoir l'intention de m'en aller d'ici, quoi. Mmh. Il fallait que je fasse un truc ailleurs à un moment donné et puis que je revienne.
Qu'est-ce qui est aussi attachant en Calédonie, Dominique ?
À cette époque-là, je pense que c'est le rapport entre les uns les autres, rapport humain. Moi, je commence, parce qu'évidemment, je ne connais pas du tout la culture kanak à ce moment-là, hein. Donc je la rencontre à travers des artistes, donc qui ont toujours des visions un peu différentes. Donc je profite de ça. J'ai l'impression que tout est possible, surtout. C'est un pays où tout est possible, où rien n'est nécessaire, on peut y aller, quoi. Et moi, c'est ce qui m'enchante, en fait. C'est ce qui me donne envie. Je traverse plein de périodes, où la période d'événementiel, entre 89 et 2000, je travaille essentiellement à faire des concerts, à faire des choses comme ça. Après, ma première expérience avec l'Agence de développement de la culture kanak, par exemple, c'est fin des années 90, où je fais quelques concerts, et c'est assez drôle, les premiers concerts du Kaneka, mais je les fais au Théâtre de Lille, pour le coup, qui n'existe pas en tant que tel. Et puis après, je travaille sur le Festival des Arts du Pacifique, à la demande de la DCK et d'Octave Tonia, qui était le directeur de la DCK. Et je pars sur une aventure absolument exceptionnelle de 8 mois à préparer le premier Festival des Arts du Pacifique qui a lieu donc ici à Nouméa. Et ça, une fois fini, je reprends mes activités, on revient me chercher. Et là, je vais bosser pendant 6 ans au Centre culturel de Chibaou en tant que responsable des programmes. Mmh. Et le Théâtre de Lille arrive après ça.
Théâtre de Lille, ça a été un événement quand même.
Oui, bah, après, il a une sacrée histoire, hein, effectivement. Mmh. Hein, c'est un bâtiment du bagne où il s'est passé énormément de trucs, où il y a eu plein d'activités différentes. Les Américains s'en sont servis comme messe pendant la guerre du Pacifique. Une fois qu'il a été repris aux alentours des années 70 par Michel Cambolive, qui, passant par là, a découvert ce bâtiment qui était dans un état pitoyable, en a refait un théâtre. Le premier invité qui lance vraiment le Théâtre de Lille, c'est Jean Marais, mmh. en 74. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Et puis après, il s'y passe plein de trucs, du cinéma, de la boxe, des expos de bagnoles, voilà. Et puis en 97, à l'instar de Dan Lost, qui est à ce moment-là élu de la culture à la ville de Nouméa, il est décidé qu'il va exister en tant que théâtre de la ville, quoi. Et donc en 97, la préfiguration démarre, et, ça prend 3 ans, et en 2000, c'est l'inauguration, et on est monté en puissance jusqu'au 13 mai.
Depuis, le théâtre, évidemment, le Théâtre de Lille a fait ses armes, hein, comme on dit, ouais. a acquis sa notoriété, y compris d'ailleurs avec la venue de troupes nationales, internationales, oui, etc., qui sont venues ici. Cette évolution, vous l'avez accompagnée finalement tout au long de ces années.
Oui, alors je pense que même je peux même être content de l'avoir initiée, parce qu'il y avait quelques compagnies qui venaient de métropole précédemment, mais relativement peu. Alors que moi, j'avais ce projet-là de faire qu'effectivement on soit et à la fois reconnu comme un théâtre défendant les artistes locaux, mais aussi un portant des artistes qui venaient de l'extérieur, et aussi de faire parler du Théâtre de Lille en métropole. C'est pour ça qu'au fil des années, on a même fait des coproductions avec des pièces qui étaient créées en métropole et rediffusées ensuite en métropole, emmenant avec elles le nom du Théâtre de Lille et la situation de la Nouvelle-Calédonie dans ce monde géopolitique.
Ça a permis aussi alors de populariser, j'allais dire, ou de rendre populaire plus exactement un certain nombre d'auteurs locaux.
Alors, d'écriture théâtrale, c'est pas si évident que ça. Y a des compagnies qui existent, évidemment. Certains des metteurs en scène des compagnies s'essayent à l'écriture. Je dirais que celui qui écrit le plus pour le théâtre, c'est Pierre Gop. Mmh. C'est un théâtre particulier, hein, c'est une écriture particulière, mais en tous les cas, c'est le seul auteur réel de théâtre. Et c'est un auteur que nous, on a défendu très très longtemps, mais de la même manière que le Centre culturel Chibaou. Hein, je veux dire qu'on est très attentif à son travail. Là, actuellement, il travaille sur des textes justement pour le Théâtre de Lille. Et après, il y a quelques autres auteurs, effectivement, qui se sont mis à écrire. Mais c'est relativement peu. Alors, il y a plein d'auteurs ici, mais l'écriture théâtrale est un peu particulière. Mm-hmm. En fait, ce dont on souffre plus, c'est des metteurs en scène locaux qui auraient envie de s'approprier des textes ou des écritures locales pour essayer d'en faire des pièces de théâtre. C'est aussi pour ça qu'on est toujours un petit peu en train de tourner en rond sur la proposition théâtrale locale. Mmh. Et c'est un peu dommage. Bon, moi, ça fait des années que j'essaye de passer le message. Il passe pas facilement. Peut-être ça viendra une fois que je serai plus là. C'est souvent comme ça que les choses se passent.
Est-ce qu'il a trouvé son public, ce Théâtre de Lille, depuis le temps ?
Alors oui, il avait trouvé son public sans difficulté, véritablement. Il a beaucoup perdu de public depuis la période Covid, la période référendum et maintenant la période des exactions. Évidemment, c'est très très compliqué, mais il avait trouvé vraiment un public. Alors évidemment, hein, c'est l'image globale du théâtre, cette image intello qui est assez fausse sur le fond, en plus par rapport à la programmation que nous on faisait, qui était extrêmement éclectique. Mais oui, c'est un public plutôt européen et calédonien, assez peu océanien. Mmh. Alors le monde océanien, on a la chance de pouvoir aller le chercher, mais dans sa prime jeunesse, je dirais, on fait beaucoup de séances scolaires, et ça nous permet effectivement d'habituer des jeunes à venir dans une salle de spectacle. Parce que c'est pas trop d'aller voir du théâtre, c'est surtout d'avoir envie de rentrer dans une salle de spectacle, et on sent bien que dans le monde océanien, c'est pas naturel, alors que ça l'est un peu plus dans le monde occidental.
Cette période qu'on vit en ce moment, Dominique, c'est évidemment très compliqué pour la culture en général. Ouais. Est-ce qu'elle n'a pas un rôle à jouer quand même, parce que on a l'impression qu'on a affaire à des formes de radicalité qui s'expriment tous les jours. Est-ce que finalement le théâtre, la culture en général, la musique, l'écriture, ça, ça peut jouer un rôle selon vous?
Oui, bien évidemment, mais on représente quoi? C'est 10% du besoin. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'autres choses d'abord à mettre en place pour que nous, on intervienne. Compter sur les artistes pour modifier les choses, j'y crois dans un monde qui va relativement bien et effectivement, on accompagne. Le théâtre, par exemple, c'est véritablement un miroir de la vie, quoi. Vous voyez sur les planches ce qui se passe dans votre vie. Enfin, et l'idée, c'est ça. Et c'est de vous faire comprendre ce qui peut être différent et ainsi de suite. Mais compter aujourd'hui sur les artistes pour modifier quelque chose qui n'a pas été fait politiquement, je veux dire, c'est un peu tard, quoi. Mmh. Et c'est pas la bonne solution. La solution, c'est d'avoir une véritable politique culturelle dans un pays qui amène le partage et la rencontre entre les artistes et le public, enfin, et la population. Ça, évidemment, ça, c'est hyper important. C'est un vrai challenge. Le challenge, il a jamais été relevé par les politiques d'ici, quoi. Donc, aujourd'hui, on est un petit peu démunis. On voit bien, il y a des tas d'artistes qui ont envie d'aller faire des choses dans les endroits aujourd'hui qui sont fréquentés par les jeunes, c'est-à-dire encore les établissements scolaires pour un certain nombre, et on voit bien que c'est compliqué d'y rentrer, c'est compliqué. Alors, c'est peut-être pas le moment, parce qu'il y a tellement de choses à remettre en place, mais nous, on pourrait accompagner. Alors, on accompagne comment? On accompagne par la parole, par les textes, par l'écriture, évidemment, effectivement. C'est aller demander aux jeunes d'exprimer ce qu'ils ont ressenti et nous de les aider à l'exprimer, à le mettre en scène éventuellement, ou à le mettre en espace si on veut quand même pas en faire du théâtre, et pour que la parole puisse traverser les établissements, entre ceux qui étaient sur les barrages peut-être et ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui en ont souffert, ceux qui n'en ont pas souffert et ou souffert différemment. Effectivement, notre rôle il serait là, sauf qu'on n'y arrive pas. Sauf qu'aujourd'hui, on a fait la proposition et on n'y arrive pas. C'est-à-dire que les établissements scolaires ne nous répondent pas favorablement à ça pour l'instant, ou alors partent sur des envies propres à eux. Mais en tous les cas, le dialogue aujourd'hui, il se fait pas. Alors, il y a parfois des artistes qui se débrouillent tout seuls. Alors, on les voit dans la rue, on les voit dans des endroits, nanana, ça, c'est super, mais... C'est pas des coups d'épée dans l'eau, parce que je crois qu'il faut jamais dire ça. Mais c'est pas hyper porteur quand même, quoi. On va pas changer le monde. En tous les cas, on va pas changer notre façon de voir aujourd'hui le destin commun grâce à ça, quoi, malheureusement.
Pourquoi on se comprend pas? Parce qu'on se connaît pas assez bien?
Oui, je crois, oui, bien sûr. De toute façon, on sait bien que l'on se comprend pas quand on se fait peur les uns les autres. Et donc, si on se fait peur, c'est qu'on se connaît pas. C'est qu'on s'est pas rencontré. Je veux dire, ça, c'est un faux semblant, le destin commun aujourd'hui. C'est incroyable comment ma vision de la Calédonie a pu évoluer en 40 ans, quoi. Je veux dire, à me rendre compte, moi aussi, qu'effectivement, malgré les gens que je les connais peu. Ce sont des cultures tellement différentes. On parle presque pas le même langage, on le voit bien aujourd'hui. Et c'est effectivement, les artistes auraient peut-être quelque chose à jouer, et ils y pensent. Moi, je discute avec quelques artistes, et il y a un collectif d'artistes qui déjà est en train de se dire comment on peut relater les événements qui viennent d'arriver, comment on peut en parler, comment on peut faire un truc ensemble, pour justement aller expliquer à la population ce qui s'est passé, quoi.